The skeptics movement has been a really fascinating one. And I got interested in skepticism like back in the 60s when it was first getting started. The Zetetic, you know, the little funny journal that preceded Skeptical Inquirer, you know, back in the day.
Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 30, pour le samedi 26 décembre 2009. X-Film, autopsie d'une enquête. Aujourd'hui, je vais interviewer le metteur en scène Gilles de Vogel, qui a réalisé, il y a quelques années de cela, un court-métrage donc, qui s'intitule X-Film, qui est évidemment un clin d'œil à X-Files. Et ce court-métrage aborde la vague belge. Ça tombait bien, puisqu'en fait, nous sommes dans le 20e anniversaire de la vague belge, puisque la vague belge a débuté en 1989. Donc nous sommes 20 ans après. Et cet épisode sera un peu notre célébration des 20 ans de la vague. D'abord, je voulais souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, puisqu'on est dans la période de Nouvel An et de Noël, donc joyeuses fêtes. Et j'espère que vous allez passer une excellente année 2010. Sinon, je voulais juste dire un mot, j'ai reçu un certain nombre d'emails et de commentaires, qui sont bien entendu les bienvenus, à propos de la qualité sonore du balado et du fait que durant les interviews, ma voix, moi, le son était mauvais. Et donc je voulais prendre la peine de remercier tous les gens qui m'avaient envoyé ce feedback et dire oui, j'ai conscience du fait que parfois le son sur le balado n'est pas optimum. Et disons que j'y travaille et que ça fait un peu plus de 6 mois que le balado existe maintenant, et depuis qu'il a commencé, le son s'améliore lentement mais sûrement. Et oui, j'essaye d'améliorer le son aussi, donc ayant conscience de ces problèmes sonores. Enfin bon, comme je répondais à certaines de ces personnes, ce qui compte le plus, c'est que la personne que j'interview ait un bon son. Mais donc, oui, mais merci pour le feedback, en tout cas. Oui, j'ai conscience, vu que j'écoute le balado moi-même, j'ai conscience de ces problèmes sonores. Et je fais mon possible pour y remédier, en sachant que je ne suis ni informaticien, ni ingénieur du son, etc. Et que donc mes compétences en la matière sont ce qu'elles sont, je fais avec. Voilà, ceci étant dit, je voudrais aborder avec vous la formation en ligne d'introduction à la parapsychologie de l'Université d'Édimbourg, qui s'est terminée pour moi la semaine dernière, donc j'ai fait le semestre complet. J'en avais parlé durant l'épisode 15 du balado où j'avais annoncé que je débutais cette formation. Et donc, comme j'avais annoncé que j'en parlerais quand ce serait fini, je vais le faire maintenant. En résumé, j'écris un billet sur le blog Scepticisme Scientifique pour ceux qui voudraient le lire. Mais en résumé, ce cursus en ligne donc de l'Université d'Édimbourg se compose d'un manuel qui est An Introduction to Parapsychology 5th Edition, qui est un livre écrit par la responsable du cursus, Caroline Watt, et Harvey G. Irwin. De lecture obligatoire, donc un ou deux articles scientifiques à lire chaque semaine. D'une ou deux interviews d'un parapsychologue à écouter sous format MP3 chaque semaine. Et puis d'un forum de discussion. Et on demande à tous, à chaque participant du cours, d'écrire un billet de début de conversation à tour de rôle, en fait. En fonction du thème de la semaine. Par exemple, moi, on m'avait assigné la semaine consacrée à la psychokinèse en laboratoire, et donc j'ai écrit un billet que vous pouvez aussi lire sur le blog Scepticisme Scientifique, qui s'intitule PK and Las Vegas. Voilà, ça c'était pour comment ça s'est passé. Bon, ce qui était intéressant pour moi, vu que je n'avais jamais suivi de formation universitaire en ligne, et globalement je trouve que c'est vraiment... Bon, de toute façon, j'ai vraiment pensé du bien de cette formation, sous tous les aspects. Mais aussi, pour purement l'apprentissage en ligne, ça m'a convaincu que c'était intéressant. Effectivement, le fait simplement d'avoir des lectures d'articles scientifiques obligatoires et d'écouter des interviews en format MP3, ça se prête finalement bien à l'apprentissage en ligne. Bon, ça demande surtout de la motivation de la part de l'étudiant. Sinon, oui, au bout en fait, à la moitié de la formation, le groupe a été scindé en deux entre des étudiants réellement débutants et des étudiants entre guillemets intermédiaires, c'est-à-dire en fait ceux qui n'étaient pas débutants. La raison était que, apparemment, les étudiants débutants avaient un peu peur de se lancer dans la conversation sur le forum. Comment dire? Un peu impressionné par les échanges des étudiants qui avaient déjà des connaissances. Je me suis retrouvé évidemment dans la catégorie intermédiaire. C'est en gros finalement ma seule critique de la formation. On était à peu près 17-18 élèves dans la formation, ce qui est un bon nombre, mais en même temps, ce bon nombre dépend du fait qu'il n'y a pas de critères d'admission. Donc en fait, n'importe qui peut s'inscrire. Bon, ça veut dire qu'il y aura des gens qui n'auront aucune formation universitaire préalable. Et je pense qu'à un certain moment, ça pose un peu problème, surtout quand les gens n'ont aucune notion de statistique. Moi-même, je suis pas statisticien, j'ai des notions de statistique du fait que j'ai étudié la psycho, mais les débats en parapsychologie sont rapidement assez techniques sur les notions de statistique. Et quand on n'a jamais eu de cours de même d'introduction à la statistique, ça me paraît un peu difficile. Mais bon, c'était pas mon cas de toute façon, mais je ne sais pas. Comment quelqu'un qui n'avait aucune notion de statistique pouvait percevoir ou comment il profitait de la formation, c'est un peu difficile à dire. Et c'est pas la seule chose en fait, évidemment. À mon sens, j'ai l'impression que s'ils avaient l'espérance d'avoir plus d'élèves ou suffisamment d'élèves, ça serait pas mal qu'ils mettent un prérequis, par exemple d'avoir fait 2 années d'université, quel que soit le domaine, mais au moins avoir un minimum de prérequis. Enfin, ça, c'est ma seule véritable critique de la formation. Oh, sinon, j'ai trouvé que l'équilibre entre les interventions des sceptiques et des tenants, en termes d'articles hein, et d'interviews à écouter, était excellent. Vraiment, ça m'a. En fait, j'ai été impressionné. Je m'attendais à ce que ce soit une formation beaucoup plus déséquilibrée du côté psyphile, mais non, en fait. On sent qu'il y a une vraie volonté d'essayer de présenter les deux aspects, les deux côtés du débat. Ça veut dire qu'en pratique, on a des interviews avec donc Chris French, James Alcock, Richard Wiseman, Gerard Hooft, du côté sceptique, et puis on a des articles aussi de sceptiques à lire, et parallèlement à des interviews, par exemple, de Dean Radin, Jessica Hutz, et d'autres tenants de la parapsychologie bien connus. Et donc, en gros, oui, l'équilibre est excellent. Et à certains moments dans la formation, on a carrément, par exemple, 2 articles à lire, un article d'un sceptique, plutôt d'orientation sceptique, et un article plutôt d'orientation psyphile, et ça donne un bon équilibre. On donne aux élèves les deux côtés de la balance. Et puis, il y a carrément donc une semaine sur comment penser de manière critique à propos de la parapsychologie, qui est centrée sur James Alcock et son article Give the Null Hypothesis a Chance. Avec une interview d'Alcock. Et aussi, oui, il y a aussi la semaine sur la croyance au paranormal, où là, on a Chris French, évidemment, qui parle de la psychologie des expériences inhabituelles. Et on a aussi, ce qui est très amusant, Harvey J. Erwin, son article sur la psychologie du sceptique. Mais en fait, bon, tout ça pour dire, dans l'ensemble, je pense que quelqu'un qui suit la formation, bah, il entend les deux sons de cloche. Et bon, après, c'est à lui de se former sa propre opinion. Comme je le disais sur le blog, je pense que moi-même, ayant lu pas mal, énormément de parapsychologie avant de faire la formation, j'étais pas du tout déconcerté par ce que je lisais sous la plume de Dean Radin ou Jessica Hutz ou de n'importe quels autres, vu que je sais le genre de choses qu'ils racontent. Par contre, je pense que les autres étudiants qui viennent à la formation en ayant pas une grande connaissance de la parapsychologie, mais évidemment, la grande majorité sont quand même des gens qui ont tendance à croire dans l'existence du paranormal, généralement parce qu'ils auront eu des expériences inhabituelles eux-mêmes. Mais oui, donc ces gens-là qui arrivent et qui commencent une formation de ce type, où ils devaient aussi s'attendre à ce qu'elle soit très déséquilibrée du côté psyphile, et puis se retrouvent avec des lectures sceptiques et des interviews sceptiques, je pense certains ont dû être assez déconcertés. Il y a eu des réactions assez amusantes la semaine où il y a eu l'article de James Alcock. Give the null hypothesis a chance, donner une chance à l'hypothèse H0, donc donner une chance à l'hypothèse que le psy n'existe pas, où les gens se disaient, mais oui, c'est vrai que j'ai lu l'article de James Alcock et il est vraiment convaincant, etc. Ils étaient un peu déconcertés. Voilà, bref, tout ça pour dire excellente formation. Je pense que c'est vrai que sociologiquement, il y a fossé qui s'est creusé entre les parapsychologues et les sceptiques, qu'une telle formation peut créer des ponts entre ces deux groupes sociologiques. Et ultimement, je conseille vraiment cette formation à tous les sceptiques qui ont les compétences en anglais nécessaires, évidemment, puisque tout se fait en anglais. Et je la conseille surtout pour ceux qui veulent avoir un avis informé, pertinent sur la parapsychologie. En tout cas, la formation An Introduction to Parapsychology, ce n'est pas simplement une introduction. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'en faire un panorama, c'est-à-dire une sorte d'état des lieux de la discipline de la parapsychologie. Et donc, ouais, c'est vraiment intéressant, quoi. Enfin, moi, j'ai été passionné du début à la fin. J'ai eu l'occasion de pas mal échanger via le forum avec Caroline Watt, donc, qui est la parapsychologue responsable de cette formation. Et je dois dire que globalement, j'étais la plupart du temps tout à fait d'accord avec elle. Ce qui montre, je pense, qu'il y a des parapsychologues qui ont des approches scientifiques et rationnelles, qui se rendent compte que, par exemple, l'existence du psy n'est pas encore prouvée ou qu'elle n'est pas prouvée. Peut-être qu'elle le sera un jour, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas maintenant. Voilà, par opposition à des gens comme Dean Radin qui vont aller clamer partout que l'existence du psy est déjà démontrée depuis longtemps. Ouais, très bien. Voilà, s'il y a un sceptique avec un niveau d'anglais suffisant, intéressé par la parapsychologie, le rapport qualité-prix de cette formation est excellent et donc je la conseille. Je suis aujourd'hui avec Gilles De Vogel, qui est un metteur en scène et qui a réalisé un documentaire fiction. À propos de la vague belge d'OVNI, qui est dans les sujets qu'on couvre sur le balado, le phénomène OVNI. Et justement, on est dans le 20e anniversaire de la vague d'OVNI. En préparant cette interview, je me suis rendu compte, mais oui, c'est vrai. Ça a commencé en 1989, donc ça fait exactement 20 ans qu'il y a eu la vague belge d'OVNI. C'est parfait d'avoir une interview sur ce sujet-là. Et donc, ton film s'intitule X-Film, Autopsie d'une enquête. Et moi, je l'avais vu sur la RTBF il y a quelques années de ça, mais il a un peu réapparu sur le net récemment et il a fait le tour de quelques forums consacrés à l'ufologie, mais on reviendra là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu?
Oui, donc voilà, moi c'est Gilles De Vogel, je suis réalisateur, je travaille principalement pour la télévision. Et j'ai aussi quelques projets de cinéma, de fiction, de documentaire. Et donc j'ai fait l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve en Belgique. Et je suis sorti en 2002, donc ça fait à peu près 7 ans que je travaille là-dedans. Donc voilà, X-Film c'était mon film de fin d'études en fait.
Qu'est-ce qui t'a donné l'idée au départ de faire un court métrage, ton travail de fin d'études sur la vague belge? Qu'est-ce qui a germé cette idée dans ton esprit?
Mais en fait, la vague belge c'est venu en cours d'écriture parce que à la base, en fait, j'avais vu un documentaire, un vrai celui-là, sur c'est un documentaire qui a été réalisé par Henri-François Humbert et c'est un film sur quelqu'un qui, enfin, le réalisateur Henri-François Humbert qui découvre dans une caméra Super 8 qu'il a acheté sur une brocante un vieux film qui a été tourné sur une plage, des enfants qui s'amusent dans les années 80. Et donc, il décide de découvrir qui se cache derrière cette famille. Et voilà, il fait une enquête et il essaie de trouver cette famille et de leur montrer ce morceau de leur souvenir qui est resté oublié dans le fond d'une caméra. Et donc, j'avais vraiment été impressionné par ce film parce que j'aimais bien cette idée de découvrir un film et qu'on ne sache pas exactement ce qu'il y a dedans. Et je me suis dit, tiens, si je découvrais un film et que ce qu'il y avait dedans, il y avait des gens qui ne voulaient pas que ça sorte. Et donc, je suis parti de là, en fait, de cette idée-là. Et donc, la vague des ovnis, c'est arrivé parce que, en fait, j'avais envie que le film soit vraiment très ancré dans la réalité, dans les choses voilà, qui se sont passées. Et je me suis dit, quel événement peut aider ma cause, donc avoir des images d'archives de l'époque et qui pourraient être quelque chose que des gens voudraient qu'on cache, quoi. Et donc j'ai tout de suite pensé à la vague belge des ovnis, puisque moi-même quand j'étais, enfin j'avais, voilà, quand en 89 j'avais 9 ans, je suis né en 80, donc ça m'a marqué. Je pense que tous les gens qui ont vécu cette vague à cet âge-là, ça les a beaucoup marqués parce qu'on en parlait régulièrement quand même à la télévision. Et donc je me suis lancé là-dessus et voilà, le film est parti comme ça. J'ai commencé à écrire là-dessus, quoi. Et donc au début, je comptais réaliser un faux film en pellicule qui aurait été tourné à cette époque-là. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, mais pourquoi je ne baserais pas mon film sur une pellicule qui existe vraiment? Et donc c'est pourquoi j'ai cherché dans les archives de l'IAD un film qui était plus ou moins de cette époque-là, qui était fait en pellicule et sur lesquels on pourrait peut-être remarquer l'une ou l'autre apparition d'objets. Et donc c'est comme ça que je suis tombé sur ce film sur les colombophiles. Et donc voilà, le film s'est construit à partir de ça. Puis de fil en aiguille, j'ai essayé de faire évoluer l'histoire, essayer de retrouver les gens qui étaient dans ce film, savoir s'ils savaient quelque chose et tout ça. Et donc voilà, c'est parti un peu comme ça. Disons que la vague d'OVNI à la base, quand j'ai pensé à l'idée, ça n'y était pas. Et puis c'est ensuite, en écrivant, en essayant de réfléchir à comment inscrire ce film dans la réalité, que je suis revenu là-dessus, quoi.
Le film s'intitule X-Film, donc c'est un clin d'œil à X-Files, je suppose. Est-ce que X-Files a été une
Bien
source
sûr.
d'inspiration importante pour toi?
Non, pas trop, parce que j'ai jamais été un grand fan de X-Files. C'était juste pour le clin d'œil, en fait. Pour qu'en fait, les gens qui sont. Qu'il y ait déjà un clin d'œil dans le film, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très sérieux, en fait. En fait, l'idée du film, c'est que les gens se posent tout le temps la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que. Tiens, ça m'avait l'air vrai, ça m'a l'air faux, enfin, qui ne sache pas vraiment, en fait, et justement leur faire avaler le plus en plus de choses qui sont complètement incohérentes, jusqu'à la fin qui est complètement grotesque. Et donc le film, c'était justement d'essayer d'aller en crescendo et voir jusqu'où les gens sont prêts à croire le film. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, moi, après 5 minutes, j'avais compris que c'était un documentaire. Il y a d'autres gens qui m'ont dit jusqu'à la fin, j'y ai cru. Donc c'est marrant de voir la perception des gens en fonction de voilà ce qu'ils connaissent un peu l'histoire, ce qu'ils connaissent un petit peu les rouages du documentaire, de l'enquête. Voilà, il y a des gens qui tombent vite dans le panneau, il y a des gens qui captent tout de suite que c'est du faux, quoi.
Moi, à l'époque où je l'avais vu, moi je connais assez bien évidemment la vague belge et donc j'ai compris assez vite parce que le point que tu n'as pas réussi à me faire avaler, c'était l'aspect théorie de la conspiration. Parce que justement, une des caractéristiques de la vague belge, c'est que l'armée a essayé de jouer la transparence pour éviter à tout prix que les ufologues disent qu'il y a une conspiration. Et donc, quand tu as commencé à parler d'une conspiration, je disais, ça colle pas du tout à ce qui s'est passé pendant la vague belge. Mais je peux comprendre tout à fait qu'il y ait des gens qui, moins informés que moi, évidemment, qui ne soient pas au courant, qui ne réalisent pas que ces détails ne correspondent pas avec les événements ou détonnent par rapport aux événements.
Ouais.
Quel type de documentation ou de recherche documentaire t'as réalisé pour réaliser le film, pour écrire le scénario?
Tu veux dire au point de vue de la vague d'OVNI ou enfin parce que le film il est vraiment il est entièrement en fait écrit quoi. Je dirais que le seul moment où j'ai dû faire des recherches c'est quand j'ai décidé de mettre la vague d'OVNI dans l'histoire. Bon, j'ai juste lu le rapport de la SOBEPS sur la vague d'OVNI belge. J'ai lu quelques articles dessus. J'ai revisionné les archives de l'RTBF puisque j'avais besoin d'images. D'ailleurs, je tiens à signaler que l'RTBF m'a gentiment prêté ces images qui sont totalement gratuites. Mais j'ai pas fait de recherche plus avancée que ça. À un moment, je me suis dit que ça serait bien que des spécialistes en parlent dans le film. Donc, c'est pour ça que je me suis adressé à la SOBEPS. Qui à ma grande joie ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils trouvaient le film, enfin le scénario que je leur avais renvoyé assez rigolo, qui étaient prêts à participer au film. Mais disons que moi j'ai tout ce que j'en connaissais, c'était ce que j'avais vu quand j'étais petit et bon, j'ai juste revu des reportages dessus, j'ai relu des livres, mais à part ça s'est arrêté là, je pense.
Donc au niveau de tes contacts avec la SOBEPS, il y a cette fameuse scène où tu as carrément été dans les locaux de la SOBEPS
comment ça s'est passé ce jour de tournage? Et donc tu as donc une sorte de fausse, enfin d'interview de Patrick Ferrin où il parle de la magnéto-hydrodynamique, de la MHD. Comment ça s'est inséré dans l'histoire?
Bah ça c'est donc en fait j'ai contacté Monsieur Clairbeau pour savoir s'il y avait moyen de déjà introduire la SOBEPS dans l'histoire et qu'il soit d'accord. Puis ensuite, je leur ai demandé si on pouvait tourner dans leurs locaux. Ils ont accepté. Et en fait, Patrick Ferrin, je l'ai rencontré le jour même. Parce que j'ai demandé à M. Clairbeau, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui est un peu plus intéressé par les images et tout ce qui est vidéo et tout ça. Et donc, il m'a dit que M. Ferrin était plus calé là-dedans. Donc, je l'ai rencontré le jour même de l'interview, en fait. Et voilà, je lui ai expliqué ce que moi, je voulais qu'il dise en gros. Et en discutant avec lui, c'est lui qui m'a dit tiens, mais on pourrait pour aller plus loin. Et je pense même que c'est pendant l'interview qu'il a parlé de la MHD, sans que on l'évoquait avant. Je pense que avant qu'il en parle, je connaissais déjà la MHD parce que j'étais quand même intéressé par tout ce qui était OVNI et tout ça. Mais quand il me l'a sorti, voilà, dans l'interview, dans le feu de l'action. C'était totalement comme ça, il s'est pris au jeu et donc il a dit ça, il est sorti ça tout à fait naturellement et pour moi c'était parfait quoi. Il a vraiment joué le jeu et en fait on lui a donc ce qu'on a fait c'est qu'on lui a amené des images qu'on avait mis sur vidéo et qu'il présentait comme étant les analyses qu'ils avaient faites. Mais ça a été créé de toutes pièces par notre équipe de spécialistes multimédia, je dirais. Mais voilà, ils ont été très sympas.
Quelle a été l'évaluation de tes professeurs sur ton travail?
Ben j'ai été félicité et je pense qu'ils ont bien aimé. Ça a été assez difficile en fait à la base de leur faire. Quand j'ai remis le projet, disons qu'il y avait certains professeurs qui n'étaient pas très partants. Et puis, au fur et à mesure de la construction du scénario et de l'histoire, ils sont pris au jeu. Et d'ailleurs, il y a des professeurs à moi qui jouent dans le film. Et en fait, le film a été projeté pour la première fois à la séance de fin d'année, donc devant un public dans les grandes salles de l'UGC de Louvain-la-Neuve. Donc il y avait quoi, il y avait 500 600 personnes et tout le monde rit, donc voilà, moi je trouve, enfin je pensais que c'était réussi quoi.
Et puis après il a été diffusé donc à la RTBF. Quels sont les feedbacks que tu as reçus au fil à mesure du temps à propos du film?
Ben en fait le film a gagné un prix à un festival bruxellois et qui donnait accès à une case de la 2, donc la case court-métrage, et donc j'ai eu la chance que le film soit diffusé plusieurs fois sur la 2, même pendant la nuit, parce que les programmes qu'ils achètent, ils les passent en boucle, et il y a beaucoup de gens qui tombaient dessus en pleine nuit, à 3h du matin, en rentrant d'une soirée ou quoi, et qui flashaient, qui hallucinaient complètement, et donc... ce qui est chouette, c'est qu'à la fin du générique, j'avais mis une adresse d'un site internet sur lequel j'avais prévu de continuer un peu la conspiration en mettant d'autres documents, en donnant des informations sur le film, des photos de tournage et tout ça. Et donc il y a pas mal de gens qui ont vu l'adresse, qui l'ont retenu et qui ont réussi à me joindre, m'écrire sur ce site, sur des forums qu'on avait ouverts. Et ça, c'était assez marrant de voir la réaction des gens. C'était ça allait du mais enfin vous m'avez c'est vraiment honteux de faire des films comme ça, de prendre les gens pour des cons. Et d'autre côté, les gens disaient ah chapeau, vous m'avez baladé du début à la fin, j'ai vraiment eu très peur jusqu'au bout. Enfin voilà, ça allait un peu dans tous les sens quoi. Je pense que les gens avaient, en gros, c'était plutôt positif, évidemment. Les gens qui écrivaient, c'était plus pour dire du positif que du négatif.
Oui, je voulais te demander. Donc, il y a la fameuse image finale où c'est un extrait du journal télévisé de l'époque où donc le présentateur de l'époque annonce le sujet sur la vague belge, et puis finalement il reçoit un coup de téléphone qui lui dit qu'il peut pas diffuser le documentaire. Est-ce que c'est des documents, enfin ça s'est vraiment passé, ou c'est des images d'archives?
Oui, ce sont des images d'archives, et c'est vraiment un bug qui s'est passé au moment de diffusion d'un reportage sur les ovnis. Et donc quand j'ai vu cette image et cette archive, je me suis dit ça il faut la mettre quelque part, faut bien la placer. Et en fait, en cours de montage, en fait le mon scénario original, la fin était différente. En gros, la fin, c'était, on avait été faire une autre interview et on s'était fait, enfin, toute l'équipe avait disparu, en fait. Il ne restait plus que le monteur pour terminer le film, et il avait peur de ce qui allait lui arriver. Parce que, il se rendait compte que la conspiration venait jusqu'à nous enlever, nous. Et donc, quand on a visionné les rushs qui nous permettaient de faire cette fin-là, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Et alors on s'est dit, ce qui est le plus fort dans l'histoire, c'est quand même cette histoire de Brigode, donc le présentateur du JT qui devient un extraterrestre. Ça devait être le clou du film. Et on s'est dit, il faut quelque chose pour rabaisser la tension après et conclure le film avec quelque chose d'humoristique et en même temps un peu fort. Et alors on est retombé sur cette archive qui vient en fin de générique. Et ça c'est vraiment un coup de chance, quoi. C'est vrai que sur ce film il y a eu comme ça des choses qui sont placées de façon par exemple donc le film en pellicule qu'on recherche, et donc il y a un film en fait sur des colombophiles en Belgique qui a été tourné en 1991 par un étudiant de l'IAD. Ce film on a retrouvé les gens qui étaient les protagonistes du film. C'est un couple de retraités à Jean Blou. Et en fait, quand on est allé les trouver, c'est le premier jour de tournage, on est allé les trouver et on leur a demandé, tiens, mais pourquoi vous avez refusé que ce film soit diffusé à RTBF? Donc ça, c'était la question que je voulais absolument dans le film. Et en fait, c'est eux qui ont commencé à échafauder des choses. Oui, peut-être que c'est la Fédération des Colombophiles qui ont... Et donc ils m'ont apporté des choses comme ça que j'avais pas prévues dans le scénario, mais qui apportaient des choses en plus au film. Et donc on a quand même beaucoup joué là-dessus sur des interviews où voilà, on se sert de ce que les gens disent, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, mais voilà, avec Patrick Ferrin et la MHD, c'est pareil, il nous a dit ça, c'était d'autant plus réaliste pour le film, quoi.
Ça rajoute vraiment des touches de réalisme. Quand j'écoutais donc le passage avec Patrick Ferrin, je me disais, oui, c'est exactement ce qu'il dirait. Enfin, ça sonnait pas du tout scripté, ça sonnait vraiment ce qu'il dirait s'il était dans une vraie interview, quoi. Donc c'était vraiment un cool passage.
Voilà, c'est ça que je me suis dit avant de commencer le film, c'est on va pas demander aux gens de jouer un rôle ou de dire des choses qui ne diraient pas eux-mêmes. Moi, chaque fois que j'interviewais quelqu'un, même que ça soit une personne vraie ou une personne qui était en fait un comédien, il ne savait pas ce que j'allais lui demander exactement à l'avance. Je lui disais à l'avance, voilà, toi tu sais ça, tu sais ça, tu sais ça, je vais te poser des questions et tu vas me répondre avec tes mots, mais j'ai pas des phrases toutes faites qui vont me dire. Et c'est la même chose avec les vrais gens. Donc Patrick Ferrin est un des interviewés qui joue vraiment son rôle. Et donc, je lui ai demandé, voilà, en tant que spécialiste, d'après ces images, et donc c'est lui qui est parti sur ce qu'il aurait pu dire dans telle situation, mais je lui ai pas imposé de dire exactement, voilà, vous allez dire telle phrase, parce que ça n'aurait plus été lui, c'était beaucoup moins réaliste, en fait.
Au niveau des réactions, donc récemment, j'ignore pourquoi, en fait, mais tout d'un coup... un peu sur les forums d'Ufologie, ton film est réapparu. Je ne sais pas s'il a été mis en ligne ou s'il y a un... Enfin, est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour tout d'un coup que beaucoup de forums le mettent en ligne?
Ben, je vais te donner un scoop. C'est moi qui ai mis le film sur les forums. Parce qu'en fait, je suis retombé dessus il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je l'avais mis sur Internet il y a même au tout début de sa sortie, bah, à l'époque, c'était en 2002, Internet n'était pas très répandu, finalement. Et aujourd'hui, avec l'apparition de Facebook et des gens qui se partagent des films comme ça, vus sur YouTube ou autre, je me suis dit, tiens, mais c'est l'occasion de remettre mon film. Je crois que la première fois que je l'ai remis, c'est en voyant, je ne sais pas si tu as vu ce film sur France 4, La conspiration de l'apocalypse.
Oui, je l'ai vu.
En 2012. Et bon, en voyant ce film, ça m'a fait penser à mon court métrage, c'était un peu la même thématique, je dirais, créer de toutes pièces avec des éléments vrais, une histoire qui n'est pas vraie. Et donc dans leur forum, j'ai mis l'adresse de mon film et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui regardaient quoi. Et donc ça m'a donné l'idée de le mettre sur d'autres forums. Et donc comme j'ai vu que c'était les 20 ans de la vague belle, je me suis dit, tiens, mais c'est l'occasion de relancer un peu le film. Et alors, j'ai été une mettre sur des forums, en même temps des forums sceptiques et en même temps des forums d'ufologues. Donc voilà, parce que je me disais qu'ils seraient peut-être les plus amusés par le film. Et en fait, la réaction des ufologues a été assez, je dirais, négative.
C'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est un film qui amuse plus les sceptiques comme moi, tandis que ça énerve plus les tenants qu'autre
chose. Oui, parce que je l'ai, en le mettant sur les forums, je l'ai présenté comme un vrai documentaire, comme j'ai toujours fait avec ce film. Je trouve que ça marche mieux si à la base on ne s'attend pas à un film de fiction. Donc bon, mais ils ont pas vraiment apprécié. Enfin, ça dépend lesquels, mais.
Oui, c'est vrai que j'ai lu certaines des réactions, mais enfin bon, entre guillemets, c'était des réactions auxquelles on pouvait s'attendre, connaissant les individus. Ils n'apprécient pas ce genre d'humour, c'est comme ça. Mais oui, je voulais justement, c'est vrai que t'as un peu anticipé, parce que je voulais te parler, oui, de ce documentaire sur 2012, et justement de cette démarche de créer des faux documentaires. Moi, j'ai bien aimé ton film, mais par contre, ce documentaire sur 2012, j'ai pas trop aimé, parce que je trouvais que, juste, bon, c'est pas clair, en fait, pour moi, que ce documentaire, donc, sur 2012 est un documentaire à part dans la toute dernière scène finale. Et je trouvais que, là où il y a un rôle pédagogique, un peu à expliquer aux gens pourquoi, hein, tout ça, c'est des balivernes. Pourquoi les prédictions de Nostradamus ne prédisent pas la fin du monde, etc. En gros, j'avais l'impression que le journaliste avait un peu joué la facilité. Dans le fond, c'est plus facile. Je me disais, c'est plus facile pour lui d'aller un peu sur Internet, sur les forums New Age, trouver ce qu'on y raconte et de faire un documentaire en se basant sur ça, plutôt que de faire un vrai travail critique, de recherche approfondie et de déconstruire tout ce qui se dit sur 2012. J'avais l'impression qu'il avait tapé un peu jouer la facilité sur le coup. Je voulais un peu, oui, donc avoir ton opinion sur sa démarche et ce que t'en avais pensé, toi.
Oui, moi j'ai pas du tout aimé ce film non plus. Et je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Donc pour moi, je trouve que le but est vraiment pas atteint. Quand tu t'as. Enfin, en même temps, ce film sert la cause des pros 2012, je dirais, de ceux qui croient en 2012. Et il n'a rien expliqué à ceux qui veulent qu'on leur explique clairement voilà qu'est-ce qui est faux dans toutes ces histoires. Et donc je trouve que j'ai vraiment pas aimé le film. Enfin, j'ai pas compris le sens du film. Pourquoi disons que quand j'ai vu la bande-annonce et tout ça, je me suis dit, ah chouette, on va enfin m'expliquer qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire? Qu'est-ce que vraiment le calendrier Maya? Qu'est-ce qu'il est vraiment dit? Tel texte dit telle chose, mais est-ce qu'on peut attacher du crédit à ce texte? Voilà, des recherches journalistiques, quoi. Et ils ont choisi la carte du tout et n'importe quoi pour faire trembler un petit peu la ménagère dans son dans son salon. Je suis d'accord avec l'idée, mais alors il faut jouer la carte à fond et il faut vraiment y aller faut mettre une triple couche, quoi. Et il faut qu'il y ait des petits indices. Enfin, moi, en voyant le film, je me suis dit, tiens, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il creuse pas un peu plus là-dedans, ou il interviewe pas un peu plus les gens là-dessus? Donc, moi, j'avais compris assez vite que c'était un film qui allait que dans le sens des conspirationnistes, mais oui, les gens qui comprennent pas très bien, je pense que d'ailleurs la plupart des gens qui ont vu le film, ils l'ont pas compris. Et cette fin n'est pas très subtile pour dire finalement bon voilà, tout ce qu'on vous a raconté c'était n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ça aussi. Je trouve que l'explication n'était pas très claire non plus.
Oui, moi j'ai regardé en fait sur, vu que j'habite au Japon, je l'ai pas vu à la télé forcément. Je l'ai regardé sur internet et n'ayant pas beaucoup d'estime pour la profession journalistique, je n'ai pas du tout pensé que c'était un documentaire. J'ai pensé que, enfin bon, parce que moi je lis ce genre de littérature tout le temps, qu'il était tout à fait sincère, ou pas qu'il était forcément sincère, mais en tout cas que le journaliste s'en foutait, qu'il allait juste nous relancer toutes ses idées sans. Parce que pour lui, c'est juste amusant de le faire. Enfin, j'ai pas pensé qu'il y avait une démarche derrière. Et alors, l'aspect le plus amusant, c'est que j'étais tellement excédé que j'ai même pas regardé le documentaire jusqu'au bout. Et donc, j'avais pas vu la scène finale. Et j'ai dû avoir un copain sceptique qui me dit « Oui, mais dans la scène finale, il dit que c'était un documentaire. » J'étais là « Ouais, bon, ok. Pas convaincu, quoi. » Et donc, j'ai dû aller revoir la scène finale. Mais est-ce que, Aliadé, par exemple, est-ce que vous abordez ce genre de cours, est-ce que vous avez des cours d'un peu d'éthique, de réflexion sur la problématique de faire de ce genre de documentaire et de l'impact que ça peut avoir?
Dans mon souvenir, non, je pense pas qu'on en ait vraiment parlé. À moins qu'on a, enfin, on a quand même un cours de documentaire où la question de l'éthique est évoquée. On regarde des films et on en discute, et je pense qu'il y a toujours un moment où on parle d'éthique face aux personnages, face à l'histoire, mais c'est vrai que sur le documentaire en lui-même, je pense pas qu'on en ait vraiment discuté. C'est juste que bon, peut-être qu'on a regardé des extraits de, il y avait un documentaire belge très connu qui s'appelle Le Dossier B, qui est un film sur Bruxelles, comme quoi Bruxelles, il y aurait une seconde ville parallèle qui s'appelle Bruxelles et qui aurait certaines portes d'accès dans Bruxelles pour pouvoir passer dans ce monde parallèle. C'est un trochet de film. Mais je crois que pense pas qu'on en ait vraiment parlé de ça.
Parce qu'on en a, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite mode de ce côté-là. Parce que bon, il y avait eu le fameux reportage aussi à la RTBF à propos de la séparation de la Belgique en deux, qui avait fait aussi un peu un scandale, on avait reproché à la RTB d'avoir fait le documentaire, parce que les gens avaient paniqué en le voyant. Mais il y a toute une série de documentaires de ce type-là qui sortent. Oui, je me demande toujours l'impact, quoi. Puis finalement, ça remonte aussi, ça remonte à la guerre des mondes d'Orson Welles, quand il a fait sa diffusion radio et où les gens ont paniqué. Ils ont cru qu'il y avait vraiment une invasion d'extraterrestres.
Je pense que, par exemple, les Belges sont très attirés par ce genre de reportage, parce que, par exemple, si tu prends cette arrivée près de chez vous, bon, ce film est filmé comme un reportage documentaire, mais c'est une fiction. Et ce genre est vraiment très belge, parce que c'est un genre qui ne demande pas beaucoup de moyens pour faire de la fiction. Donc, le documentaire coûte beaucoup moins cher que tourner avec des acteurs, des décors et toute une équipe pour tourner des films. Tandis que quand tu filmes un documentaire avec ta caméra à l'épaule dans la rue avec quelqu'un, ou quand tu vas faire une interview, ça ne coûte rien du tout. Donc je pense que si les gens, enfin si les cinéastes et particulièrement les Belges font ce genre de film, c'est surtout une question de voilà, on n'a pas d'argent. Et qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? Eh ben, par exemple, on peut tourner un faux documentaire, donc qui sera une fiction, mais qui sera tourné avec les moyens du documentaire. Et ça c'est vrai depuis assez longtemps, je pense, dans le cinéma belge et dans le cinéma même partout, hein, quand on voit des films. Qu'est-ce qu'il y avait comme film?
Ouais, le Blair Witch Project, c'est un peu l'archétype.
Ouais, exactement, le Blair Witch Project.
Oui, enfin, moi, globalement, c'est une démarche qui me plaît bien, j'aime beaucoup, mais l'astuce, c'est que j'ai toujours un peu l'impression que ça peut renforcer les gens dans leurs croyances. Par exemple, les ufologues qui vont voir ton film, bon, même s'ils ils réalisent forcément, ou on leur dit, oui, mais en fait, c'est pas vrai, quoi, c'est juste un travail de fin d'études. Malgré tout, ils se disent, oui, mais ça correspond à une certaine réalité, quoi, ça correspond, c'est une fiction, mais en fait, c'est probablement très proche de ce qui pourrait réellement se produire en Belgique, quoi. Il y a un peu ce risque-là, qui est toujours un peu problématique derrière.
Ouais. Mais en même temps, je pense qu'en regardant un film de fiction pure, en regardant un X-Files ou quelque chose comme ça, ils vont se dire exactement la même chose, tu vois. Ils vont peut-être se dire aussi, il y a des forces qui agissent derrière le gouvernement et tout ça. Enfin,
ouais, c'est vrai.
Ils peuvent se dire, voilà, si quelqu'un a pensé à ça, c'est que peut-être que ça vient de quelque chose de vrai. Et que... Mais je pense aussi que c'est de plus en plus difficile... pour en tant que cinéaste de faire un faux documentaire où les gens y croient, parce que comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de films comme ça et que les gens sont très habitués à décrypter quand même un peu plus l'image qu'avant, j'ai l'impression. Et tu parlais justement de Orson Welles et de l'invasion, donc la guerre des mondes qu'il avait fait sur la radio. Je pense que on ferait ça aujourd'hui, les gens ne seraient plus aussi crédules, quoi. Je crois que les gens ont quand même changé un peu leur regard sur les médias. Bon, maintenant il y a toujours un travail à faire sur se rendre compte aussi que des journalistes qui proposent une information, ben l'information elle est passée dans une moulinette et elle est peut-être pas forcément tout à fait présenté dans son entièreté, quoi.
Oui, j'ai un peu fait le tour des questions que je voulais te poser sur ton documentaire. Quelle est ton actualité future? Sur quoi tu travailles pour le moment? Qu'est-ce que tu es devenu depuis?
Alors, moi, je travaille à la télévision à Paris sur M6. Donc, je fais des émissions de jeux, divertissement. Mais à côté de ça, donc ça c'est pour gagner ma vie, mais à côté de ça, j'ai aussi des projets de documentaires. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par ce qui était fantastique dans le réel, en fait. Et donc j'aime bien les sujets où, dans quelque chose d'historique, il s'est passé quelque chose de fantastique, qu'on peut jouer avec ça. Donc j'ai un autre projet de faux documentaire, qui parlerait en fait de la bataille de Waterloo, mais d'une autre manière, un petit peu, oui. Donc il y aurait des nouveaux éléments qui permettraient de faire une nouvelle hypothèse sur la défaite de Napoléon. Et donc ça c'est un projet que j'ai depuis longtemps, que j'avais déjà depuis quand j'ai fait X-Film en fait. Et c'est un peu pour retrouver cette ambiance de faux documentaire que j'avais fait dans X-Film. Et qui manque parce que ça fait là, X-Film est sorti en 2002, là on est en 2009 et j'ai pas sorti de vrai gros métrage depuis. Donc j'avais envie de retourner à la fiction. Mais donc ça c'est un de mes projets. Puis j'ai un autre projet plus documentaire classique, mais sur aussi une histoire qui touche à l'histoire et un peu au fantastique et au scientifique. Ce serait un documentaire sur le manuscrit Voynich. C'est un manuscrit qui a été écrit, on ne sait pas quand il a été écrit. Il semble dater du Moyen-Âge et il est écrit dans une langue inconnue. Et on ne sait pas où il a été écrit, par qui et pourquoi. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Et donc, c'est une histoire assez incroyable. Et donc, j'ai un projet de documentaire là-dessus. Je suis en train de rechercher un producteur pour tourner un film là-dessus. Et donc ça, c'est une histoire vraie, hein. Donc c'est pas du tout un documentaire. Et puis sinon voilà, j'ai d'autres projets de télévision.
Mais tu as l'air quand même au-delà de la démarche, tu as quand même l'air quand même de t'intéresser à ces sujets-là. Est-ce que tu peux dire que tu as une, c'est un centre d'intérêt important, la science, l'ufologie ou le paranormal ou ces sujets-là, c'est quelque chose auquel tu t'intéresses autrement?
Bah, c'est vrai que depuis tout petit, j'aime bien ces histoires-là, j'aime bien quand quand il y a des choses comme ça dans la vie qui sont bizarres, qui dérapent un peu. Et moi, j'aime bien quand les gens sont un peu bousculés dans leurs convictions. Par exemple, il y a une histoire que j'adore. C'est cette histoire d'archéologie fantastique, là, tu vois, avec les extraterrestres qui ont créé, si tu veux, l'humain et toutes les anciennes civilisations, les pyramides, tout ça, ça c'est les extraterrestres qui l'ont fait. Je me dis, c'est pourquoi pas, tu vois, c'est pas plus bête qu'une autre explication. Et je me dis, alors ça me fait réfléchir sur ce que j'ai appris, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ou est-ce que j'ai pas le droit de penser à d'autres histoires, c'est comme les religions, on m'a toujours appris des choses sur Dieu, Jésus, et un jour je me suis dit, mais en fait, est-ce que tout ça c'est pas des conneries? Et donc, je me suis dit, voilà, c'est la même chose. C'est toujours bien, je crois, de douter un peu de ce qu'on a appris. Et en même temps, de voir là où les gens se trompent et où ils disent des bêtises, quoi. Eric Van Däniken, je sais pas si tu vois le...
Bien sûr, ouais.
Celui qui a lancé un peu, qui a relancé cette idée dans les années 70, sur plein de points, il dit n'importe quoi. Sur d'autres points, ça reste quand même vachement troublant, mais rien que l'idée, lancer cette idée, je trouve ça génial, quoi, parce que on peut imaginer plein de choses et ça peut partir sur plein d'histoires. Et puis, je trouve que les gens, les scientifiques qui sont un peu trop terre à terre, du côté des sceptiques, je trouve que il y a quand même un truc. Parfois, je me dis, mais finalement, le monde dans lequel on vit, c'est quand même un truc de science-fiction, quoi. On est quand même sur une planète qui est en train de tourner dans le vide. D'autres planètes qui tournent autour d'un soleil, enfin c'est complètement fou. Et voilà, on vit et puis après on meurt, on ne sait pas où on va, enfin on ne sait pas ce qu'on devient après on meurt. Enfin c'est quand même, il y a rien de très rationnel là-dedans en fait quand on y pense. Et donc parfois je me dis ces histoires qui paraissent peut-être un peu fantastiques, elles pourraient tout aussi vraies que le monde dans lequel on vit, quoi. Enfin, je pense qu'il faut pas fermer les portes tout de suite, quoi. Moi, j'aime bien l'idée d'un peu rêver, parce que notre vie en elle-même, c'est un peu un rêve, quoi. C'est un peu un truc un peu surréaliste.
Oui, je pense que c'est un bon mot de la fin. En tout cas, merci d'être venu sur le balado. C'était sympathique. Et oui, comme je l'ai dit, moi, ton documentaire m'a bien fait rire. Donc, je suis curieux de voir ton prochain travail sur la bataille de Waterloo, si ça se fait, quand ça se fait, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me le signaler.
bien sûr.
Ok. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à toi, Jean-Michel.
Hello, Richard Saunders from Sydney, Australia. Hoping you'll join us for The Skeptic Zone, the podcast for science and reason. With guests like Brian Dunning, Derek and Swoopy, Dr. Pamela Gay, Mark Mayer, James Randi, Ben Radford, Dr. Steve Novella, Dr. Carl Krasilniski, Dr. Eugenie Scott, Dr. Paul Willis, Dr. Phil Plait, and many more, you're guaranteed a good listen. The Skeptic Zone at www.skepticzone.tv.
Voici arrivé à la fin de l'épisode. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à visiter le blog du balado, donc le blog Scepticisme Scientifique. D'ici là, à la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.
Oh yeah. I'm about to drop some particle physics in the club. The LHC is super duper fly. Know what I'm saying. Check it.
27 kilometers tunnel underground, designed with mind to send protons around. A circle that crosses through Switzerland and France. 60 nations contribute to scientific advance. Two beams of protons swing round through the ring they ride, till in the hearts of the detectors they're made to collide. And all the energy packed in such a tiny bit of room becomes mass particles created from the vacuum. And then...
Oh yeah.
LHCBs is where the antimatter's gone. L's books and collisions of lead ions. CMS and L.
catalysts are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons in the lead, and the things that it discovers will rock you in the head. We see asteroids and planets, stars galore. We know a black hole resides at each galaxy's core. But even all that matter cannot explain what holds all these stars together. Something else remains. The star matter interacts only through gravity. And how do you catch a particle? There's no way to see. Take it back to conservation of energy, and the particles appear clear as can be. You see particles flying in jets they spray, but you notice there ain't nothing going the other way. You say my law has just been violated. That don't make sense. There's gotta be another particle to make this balance, and it might be dark matter. And for the first time, we catch a glimpse of what misfell most of the known verse, because CBs is where the antimatter's gone. LHCs and collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. Antimatter is sort of like matter's evil twin, because except for charge and hiddenness of spin, they're the same for a particle and its anti-stuff. But you can store an antiparticle on any shelf, because when it meets its normal twin, they both annihilate. Matter turns to energy and then it dissipates. When matter is created from energy, which is exactly what they'll do in the LHC, you get matter and antimatter in equal parts. And they try to take this back to when the universe starts, the Big Bang, back when all the matter exploded. But the amount of antimatter was somehow eroded, because when we look around, we see that matter abounds, but the antimatter's nowhere to be found. That's why LHCBs is where the antimatter's born. LHCs looks at collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. The LHC accelerates the protons in the lead, and the things that it discovers will rock you in the head. And he explodes, and that's the one that everybody talks about, and it's the one sure thing that this machine will sort out. If the Higgs exists, they ought to see it right away. And if it doesn't, the scientists will finally say there is no Higgs. We need new physics to account for why things have mass. Something in our standard model went awry. But the Higgs, I still haven't said just what it does. They suppose the particles have mass because there is this Higgs field that extends through all space. And some particles slow down while other particles race straight through like the photon. It has no mass, but something heavy like the top fork. It's dragons. And the Higgs is the boson that carries the force. It makes particles take orders from the field that is its source. They'll detect it. When LHCBs is where the antimatter's gone, LHCs and collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find. As long as you might think that gravity is strong, cause when you fall off your bicycle, it don't take long until you hit the earth and you say, dang, that hurt. But if you think the force is powerful, you're wrong. You see, gravity is weaker than weak, and the reason why is something many scientists seek. But think about dimensions. We live in just three. Maybe there are others that are too small to see. It's into these dimensions that gravity extends, which makes it seem weaker here on our end. And these dimensions are rolled up, curled so tight, that they don't affect you in your day-to-day life. But if you were as tiny as a graviton, you could enter these dimensions and go wandering on, and they'd find you. When LHCBs is where the antimatter's gone, LHCs looks at collisions of lead ions. CMS and Atlas are two of a kind. They're looking for whatever new particles they can find.
Oh yeah, our understanding of the universe is about to change, thanks to the Large Hadron Collider. This is C to the E to the R to the N, coming straight out of Geneva.
Mr. B, drop
the beats. Alpine Cat, over and out.